Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler des joueurs, parce que finalement, au cours des séminaires précédents, on en a peu parlé, et on s'est surtout intéressé aux jeux vidéo eux-mêmes, savoir ce qui se passait dans un jeu vidéo, mais on ne s'était pas demandé, finalement, comment les joueurs eux-mêmes s'appropriaient le jeu vidéo. Et donc, la première question qui se pose, évidemment, c'est savoir s'il faut parler du joueur de jeu vidéo ou des joueurs de jeu vidéo, singulier ou pluriel, sachant que le jeu vidéo appelle des postures multiples, des positionnements multiples. Nous ne prétendons pas apporter des réponses définitives à cette question, mais nous allons essayer, à partir d'un certain nombre d'interventions, creuser justement la question du rapport au joueur, donc du rapport entre le joueur et le jeu vidéo. Alors, trois interventions vont se succéder cet après-midi. On fera une pause café vers 16h. Donc, première intervention, celle d'Isabelle Colonne, qui va nous restituer une première partie des analyses d'un travail effectué dans le cadre du laboratoire ICAR sur les interactions entre joueurs eux-mêmes, donc des joueurs qui jouent à un jeu vidéo. Ensuite, on pourra passer à l'intervention de Manuel Boutet, par exemple. Ou à moins que Samuel, tu veux mieux parler. Donc, d'accord, donc plutôt passer à l'intervention de Samuel Coavou, qui est sociologue à l'UNS LSH et qui va nous présenter les résultats de son enquête sur les joueurs, communautés de joueurs en ligne. Et puis, pour finir l'après-midi, donc l'intervention de Manuel Boutet, qui s'est également intéressé à la question des communautés, alors pas seulement de joueurs, plus largement, mais il précisera dans son intervention ce sur quoi il a travaillé plus précisément ici. Voilà, bah, je cède immédiatement la parole à Isabelle.
Donc, bonjour à tous. Donc le travail, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle en interaction les énoncés coraux, et ça va être une analyse linguistique et multimodale de cette forme de segment répété qui émerge dans les interactions de jeux vidéo. Donc comme c'est indiqué, bon, moi je suis en quatrième année de thèse, mais ça ne fait pas partie de mon travail de thèse, c'est un projet qu'on a au laboratoire ICAR avec d'autres personnes de l'équipe, donc le groupe ICOR, et donc je vais vous présenter ce travail juste maintenant. Donc, au niveau du plan, je vais d'abord faire une introduction sur le projet en lui-même et la correspondance entre les jeux vidéo et la linguistique, pourquoi on s'est intéressé au contexte de jeux vidéo. Je vous présenterai brièvement la méthodologie qu'on a utilisée pour recueillir les données, les traiter. Je vous exposerai quelques pistes d'analyse qu'on a dégagées par rapport au terrain qu'on a étudié. Puis, le point central de la présentation sera l'étude de cas, donc des segments répétés, notamment grâce à un recueil de la collection sur une base de données que je présenterai juste après, et l'analyse vraiment détaillée du phénomène que sont les énoncés coraux. Et je terminerai sur des conclusions et des perspectives. Donc d'abord, les jeux vidéo et la linguistique. En quoi les premiers peuvent-ils intéresser les seconds ? Donc, nous sommes penchés sur l'univers des jeux vidéo comme une activité de loisir qui fait partie des pratiques ordinaires des jeunes, puisque le point de départ, c'était s'intéresser au langage des jeunes, notamment de 18 ans, dans leur situation interactionnelle ordinaire. Donc, on s'est intéressé au contexte de jeux vidéo. Il s'agit d'une situation d'interaction où les joueurs et les spectateurs éventuels se parlent et où la parole elle-même construit la relation aussi bien de convivialité, de rivalité ou d'expertise. La parole également permet une coordination du jeu, plus particulièrement important dans les jeux d'équipe, comme on va le voir dans les exemples après, puisqu'on a un exemple de jeu de foot. Enfin, la parole est une dimension fondamentale et constitutive du dispositif. Donc, dans une approche plus analytique, on s'est demandé en quoi les interactions dans les jeux vidéo peuvent intéresser les linguistes. Donc, d'une part, c'est l'occasion pour nous d'analyser le langage en action dans un contexte à fort engagement. Donc, à la fois, on peut étudier le langage non contrôlé, spontané, donc ça peut être un langage non normé, et également prendre en compte l'action, le corps et l'émotion dans l'interaction verbale. Ensuite, c'est un défi aussi en termes de documentation de cette activité de jeu, au niveau de l'enregistrement vidéo et audio complexe, puisqu'on base nos analyses sur des données vidéo et audio. Donc, il faut à la fois prendre en compte ce qui se passe chez les joueurs mais également sur ce qui se passe sur l'écran de télévision ou sur lequel les joueurs s'appuient pour jouer. Et également donc, prendre en compte les joueurs et les éventuels spectateurs qui sont à côté mais qui ne jouent pas, qui ne sont pas avec les manettes mais qui regardent les joueurs engagés dans le jeu. Donc cela amène à un cadre de participation complexe où il peut y avoir plusieurs activités, des conversations parallèles qu'on appelle des schismes, ou également une attention bipolaire vers l'échange et vers le joueur. Donc attention pour la conversation entre les joueurs et l'attention vers le jeu lui-même. Donc pour cela, on a mis en place un travail de terrain. Donc tout d'abord, ça a été de recueillir les données. Donc on a 3 terrains, dont 2 principalement qu'on a utilisés pour l'analyse que je présente aujourd'hui. Le premier terrain était fait à Sainte-Foy-les-Lyons avec 2 participants, mais c'était plus un corpus test pour voir comment se déroulent les interactions en contexte de jeu, justement, et voir quels sont les problèmes qu'on peut avoir pour les enregistrements réels avec des joueurs. Donc, où placer les caméras, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc. Donc, à partir de là, on a fait 2 autres terrains, un à Aix-en-Provence, où il y avait 2 participants, 2 heures d'enregistrement, dont 1h30 en vidéo, un autre à Rieux-la-Pape, avec 4 participants et 1h20 d'enregistrement. On a positionné 2 vues vidéo, à Rieux et Sainte-Foy, et une seule vue à Aix, puisque les 2 joueurs, on avait un grand angle, donc ça suffisait, on avait la caméra sur les joueurs. Et sinon, on avait une source audio dans chaque terrain. Donc, à partir de là, on avait différents types de jeux. Et il s'est trouvé que les joueurs avaient joué à chaque fois sur un jeu de foot. Et en plus, à Rieux, sur un jeu de voiture qui est Burnout. Après ce recueil des données, donc, il a fallu traiter les données récoltées. Donc, nous, quand on récupère les vidéos, on travaille sur des transcriptions écrites des conversations orales. Donc, on a fait une transcription intégrale des interactions orales. Puis une transcription multimodale uniquement pour les extraits analysés. On a bien sûr anonymisé les transcriptions et les enregistrements sur la bande son. On n'a pas flouté par contre l'image des joueurs, mais c'était convenu avec les joueurs. Et on a synchronisé les bandes vidéo et audio pour en faire un seul fichier vidéo où on a toutes les vues, si on en avait plusieurs, plus la vue de la télé, puisqu'on a enregistré le flux dynamique de l'écran télé pour avoir le jeu. Donc on a synchronisé tout cela dans un seul fichier. Et à la fin, pour pouvoir travailler sur les données, on a partagé ces données-là sur une base de données qu'on a au laboratoire ICAR, donc la base de données de CLAPI, qui permet de faire des requêtes sur les transcriptions et de pouvoir jouer le signal audio ou vidéo en même temps que la transcription. Et donc c'est à partir de cette base de données que j'ai pu récolter une certaine collection sur les segments répétés que je vais présenter juste après. Donc là, je vous ai présenté en fait une capture d'écran. Tout à l'heure, on verra des extraits vidéo. Donc en haut, vous avez la vue à Aix. Vous avez la vue fixe sur les joueurs donc, et la vue de l'écran télé où le jeu se déroule. Donc c'était des jeux sur PlayStation en ligne sur Internet. Enfin, pour Aix, c'était en ligne sur Internet. Et pour Rieux-la-Pape, donc là, on a 4 joueurs. On a une vue fixe, caméra posée sur la télé pour les 4 joueurs. Et cette vue à droite, c'est une vue mobile. Donc une vue mobile, il y avait l'opérateur derrière qui pouvait bouger la caméra en fonction du déplacement des joueurs, recadrer, etc. Et l'image de l'écran télé. Donc tout ça, ça a été synchronisé. Là, je vous présente aussi donc, les transcriptions, donc le support sur lequel on travaille pour faire les analyses, en plus de la vidéo. Donc à gauche, vous avez l'exemple d'une transcription orale simple. On transcrit l'heure et demie entière de la vidéo. Et à droite, vous avez l'extrait. Donc là, c'est un des extraits que je vais utiliser tout à l'heure, à noter avec tout ce qui est multimodal. Donc ce qui se passe notamment au niveau des joueurs, le regard des joueurs, ce qui se passe sur l'image télé. Donc on synchronise en fait ces annotations multimodales avec le flux de la parole orale. Et donc ces transcriptions sont réalisées sur la base de la convention ICOR, qui est une convention qui est disponible en ligne. Et je vous ai mis des extraits rapides sur l'exemplier. Donc si vous n'avez pas d'exemplier, il y en a devant ici. À la fin, sur la dernière page, vous avez donc celle que j'ai utilisée principalement dans les transcriptions. Et pour plus de détails, vous pouvez aller voir en ligne. Donc on annote les chevauchements, les intonations, le volume plus bas, les segments inaudibles, les commentaires entre parenthèses, les pauses, etc. Donc voilà pour notre support de travail. Donc là, ensuite, on a dégagé des pistes d'analyse avant de travailler sur les données elles-mêmes. On a dégagé des pistes d'analyse pour pouvoir, pour se donner une idée de ce qui pourrait être intéressant à regarder dans ces données de jeux vidéo. Donc, et en fonction des domaines de recherche de chacun dans l'équipe. Donc, je vous présente quelques caractéristiques de la situation. On a remarqué une certaine coordination fine dans l'instructeur Action de ce qui se passe à l'écran, et notamment avec une organisation réflexive des temporalités de la parole et du jeu. On entend par instructed action le fait que le ou les participants énoncent des phrases de conseil, d'établissement de stratégie afin de guider le déroulement du jeu. Ces énoncés sont finement coordonnés avec l'activité du jeu lui-même sur l'écran. Cette coordination fine est liée à des évaluations du jeu en train de se faire, et ces évaluations peuvent avoir des effets rétrospectifs ou prospectifs dans l'activité en cours d'action. Également, on s'est intéressé à l'étude de la régulation des conflits, et ce, par différents procédés. Et enfin, on a remarqué de nombreuses phases de coaching des participants au cours de l'action. Donc, sur ça, on a une question centrale qui souhaite être étudiée dans l'équipe, qui est que reste-t-il de la grammaire et de la norme ? Donc, on entend par là que l'agressivité et la familiarité excessive enregistrées dans les interactions lors d'un jeu vidéo supposent de vérifier qu'il y a bien infraction, transgression ou rupture qui contrôle la norme la norme établie. Mais quelle est cette norme, en fait ? Est-ce que c'est celle d'un beau langage bien formé syntaxiquement, ou composé d'un lexique choisi ? Est-ce que ce sont des usages de la conversation courante et qu'on pourrait retrouver dans des conversations ordinaires autres que la situation de jeu ? Et à partir de là, il y a deux questions qui font actuellement l'objet d'examens ciblés dans des études complémentaires, qui sont: est-ce qu'on peut retrouver des similitudes entre les productions des joueurs et ces conversations de tous les jours, et qui sont étudiées par les chercheurs s'intéressant à l'oral, est-ce qu'on pourrait relever des différences par rapport aux conversations ordinaires ? Et enfin, est-ce que les usages dont les joueurs disposent font-ils encore référence de façon significative à l'apprentissage et aux règles grammaticales de l'écrit ? Donc ça, c'est un domaine dont certains s'intéressent dans l'équipe. Ces axes caractéristiques sont ancrés sur des phénomènes locaux, comme par exemple l'étude des injonctions, conseils, explications, exhortations, ou également la parole tronquée, des énoncés brefs, des énoncés inachevés, ou l'expression d'émotions, d'injures. Et enfin, une autre étude, c'est les segments répétés, en opposant ce qu'on appelle les autorépétitions aux hétérorépétitions. Donc ça va être l'objet de l'analyse juste après. Donc voilà les pistes un peu générales. On va s'intéresser maintenant plus particulièrement à l'analyse de cas, donc sur les segments répétés. Donc je vais faire une introduction du départ en fait général, de la collection générale que j'ai établie au départ. Donc à partir de la base de données CLAPI, donc je vous ai mis l'adresse sur le slide, pour vous montrer rapidement comment j'ai établi la collection, je vous ai fait des captures d'écran des étapes qu'on peut faire sur CLAPI. Donc là c'est la page d'accueil de CLAPI, et vous avez ici un menu outil de requêtes qui vous permet d'avoir différents types de requêtes sur les transcriptions. Et moi j'ai utilisé l'outil segment répété qui est disponible ici, et à partir de là on sélectionne le corpus par corpus. Donc là c'est le premier corpus jeu vidéo AX, et automatiquement il génère un résultat en fonction de ce qu'il trouve dans la transcription. Donc, il vous met le résultat sur trois types de données, donc en fonction, donc ce qu'on appelle, nous, dans CLAPI, une PV, donc un tour de parole, une ligne, donc les répétitions à l'intérieur d'une même PV, et par un seul token, donc le token, le mot, l'occurrence. Donc, non, exemple, non, oui, on verra des exemples juste après. De même type, dans une seule PV, un seul tour, on a deux tokens ou plus. Par exemple, la personne répète « vous avez, ah ben oui ». Troisième contexte, dans deux PV successives. Donc, vous avez l'exemple ici, locuteur A, ah ben non, on ne sait pas. Locuteur B qui répète, on ne sait pas. Donc qui nous donne un certain résultat et qu'on a trié derrière pour vraiment sortir les répétitions qui nous intéressent et les vraies répétitions. Là, vous avez un extrait. Donc quand on clique sur les attestations ici, il nous donne l'intégralité des attestations et on peut jouer le signal sonore avec. Donc soit 20 secondes, soit 40 secondes. Ici, vous avez un extrait que je vais réutiliser après. Donc ça, voilà, on a l'extrait. On regarde si c'est pertinent ou pas, si ça correspond à la recherche qu'on voulait faire. À partir de là, moi j'ai pris ces données-là et j'en ai fait des tableaux pour répartir un peu le lexique par rapport à l'environnement contextuel de la répétition, puisque nous en interaction, ce qui nous intéresse notamment, c'est tout ce qui est l'environnement séquentiel. Donc est-ce que la répétition est en chevauchement, en latching, y a-t-il une pause avant, après, à l'intérieur ? Et sa position dans le tour de parole, en début de tour, en milieu de tour, en fin de tour. Pour le moment, on n'a pas traité ces données-là, mais c'est des informations intéressantes pour nous pour voir si ça peut avoir une importance pour l'analyse derrière dans les segments répétés et l'activité de jeu. Donc, brièvement, pour vous résumer, là, j'ai fait... Donc, le tableau est normalement plus complet, mais là, je vous ai mis des extraits à chaque fois de ce que ça peut donner. La répétition dans une seule PV. Donc si la répétition d'un token est répétée 2 fois, 3 fois, 4 fois, et je vous ai mis des exemples de ce qu'on peut trouver. Ça ne va pas être l'objet d'étude aujourd'hui, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais pour vous montrer un peu ce qu'on trouve, là c'est les joueurs, donc le même qui répète « maman », Luc qui dit « oh, belle, belle, belle » en fin de tour, suivi d'une pause, Tom qui dit « vas-y, cours, cours, cours », donc ça c'est un seul token répété, au milieu d'un tour, allez, 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 plus de 4 fois. Autre contexte, donc la répétition dans une seule PV, mais de 2 tokens ou plus. Donc on a l'exemple avec 2 tokens, c'est bon, on va y arriver, on va y arriver. Plus de, donc 3 tokens, pardon, ça part de là, ça part de là, ça part de là. Et donc on voit à chaque fois, soit en début de tour, soit en fin de tour, et quand il n'y a pas, ça veut dire que quand la case n'est pas remplie, c'est que vraiment j'avais aucune occurrence de répétition dans ce contexte-là. Et enfin, donc troisième environnement dans 2 PV successives. Donc là, c'est vraiment là que moi j'ai trouvé des phénomènes intéressants avec les énoncés choraux, puisque, comme je vais le montrer après, il faut 2 locuteurs différents pour avoir l'énoncé choral. Ici, donc, au niveau des colonnes, j'ai différencié si la répétition était autour d'une pause, sans pause, en chevauchement, total ou partiel, autour d'un latching. Donc on trouve des exemples. Raphaël qui dit prolongation, Luc qui répète prolongation. Là, on retrouve où le poteau, donc ça va être un exemple qu'on a juste après. Carton jaune. Bon, là, en soi, sans avoir les données, c'est juste pour montrer les répétitions, mais voilà, on capte tout ça grâce aux requêtes de segments répétés dans Clappy. Et à partir de ça, on va faire des collections et travailler par rapport aux répétitions. Donc voilà les différents résultats et interrogations qu'on peut se poser en fonction des rôles des différentes répétitions. Donc en étudiant par exemple la catégorie grammaticale des tokens répétés, si c'est plutôt des adjectifs, des verbes, des interjections, des adverbes, des pronoms personnels, nom commun, nom propre, en fonction, on ne sait pas encore, c'est les interrogations qu'on se pose à partir de là et qu'on va étudier dans les mois qui viennent. Également le nombre de répétitions dans une occurrence. En fonction de son nombre plus ou moins important, est-ce que cela souligne une insistance, ou l'importance de ce que vient de dire l'interlocuteur? Est-ce que cela également reflète ou accentue la pression dans le jeu? Enfin, est-ce que ces répétitions sont adressées aux interlocuteurs ou à soi-même, donc en lien avec la différence d'auto-hétéro-répétition? Donc voilà, je le redis, ça va être des études qui vont être faites dans les mois qui viennent. Sur les segments répétés. Là, on va se focaliser précisément sur l'analyse de cas que j'ai fait sur les énoncés choraux. Donc, les énoncés choraux, en fait, j'ai trouvé grâce à l'outil de requête sur les segments répétés, mais en soi, c'est pas une répétition, puisqu'en fait, la définition d'une répétition, c'est qu'un locuteur dit quelque chose, le locuteur suivant répète ce que vient de dire le locuteur, mais pas simultanément. Mais on arrivait à capter ça quand même dans l'outil de requête. Du coup, donc ici, on définit bien les énoncés choraux comme des productions de même token simultanément, en chevauchement total, par deux participants différents. L'analyse que je présente aujourd'hui, je l'ai basée sur les travaux de Jane Lerner, donc je vous ai mis la référence ici, qui a travaillé sur notamment donc les énoncés coraux dans la parole en interaction. Tout au long, je vais faire des rappels par rapport à son article, puisque je me suis basée sur ces catégories pour comparer ce qu'il a fait par rapport à ce que j'ai trouvé dans les interactions en jeux vidéo. Donc, il introduit son article en expliquant que certaines formes de participation dans la conversation ne sont pas forcément organisées successivement. Donc, il n'est pas prédéfini que tel participant parle à tel moment. Et bien que la production d'énoncés coraux vise à exprimer les mêmes mots de la même manière et au même moment par deux locuteurs, cela ne signifie pas forcément que les deux locuteurs réalisent la même action lors de ces énoncés coraux. Lerner définit différentes fonctions des énoncés coraux en expliquant que les énoncés coraux montrent qu'il existe d'autres formes de participation dans la conversation que de prendre et donner la parole, que les énoncés coraux peuvent permettre d'initier ou de poursuivre une action conjointe, donc on va le voir juste après dans les exemples, et cela permet également de montrer un éventuel élargissement des unités de participation où on passe d'un participant individuel à des entités sociales plus vastes, un groupe d'individus. Également, les énoncés coraux peuvent permettre d'exhiber la compréhension, la filiation et l'accord actuel avec les locuteurs en cours. Également, ils permettent la construction d'une participation mutuelle dans les activités. Donc là, Lerner fait référence à un type d'activité qui est la remémoration conjointe. Suite à une question, on se rappelle mutuellement d'un événement. Enfin, les énoncés coraux sont une caractéristique de l'organisation de l'interaction sociale, mais qui ne sont pas forcément limités à la parole. Il peut y avoir des réalisations d'énoncés coraux via des gestes coraux, des gestes correspondants par les locuteurs. Ensuite, Lerner oppose les énoncés coraux, coproduction, et ce qu'il appelle la non-cooptation, donc la non-affiliation. Il différencie en fait entre la complétude anticipée, donc là je vais vous mettre des exemples juste après, où en fait le deuxième locuteur essaye de s'associer sur la fin de tour du locuteur précédent pour essayer d'être simultané sur sa fin du tour, et donc il oppose ça aux énoncés coraux. Et ça donne en fait des énoncés plus ou moins coraux. En fonction des locuteurs engagés, ils peuvent ou non s'arrêter au cours de leur énoncé. S'ils continuent, donc le résultat donne des répétitions oui, plus ou moins chorales. Donc ici, je vous ai mis deux exemples juste audio.
Franchement mitigé, on a eu l'occasion de... Franchement, ça ramène...
Donc ça, c'est dans le contexte de jeux vidéo.
Bon, 0-0, bon, mitigé. Franchement, mitigé, on a eu l'occasion de... Franchement, ça ramène...
Mais il chevauche la fin du tour, donc c'est pas totalement choral. Le deuxième exemple est un peu plus choral que le premier. Et en fait, au niveau du débit, Luc va beaucoup plus vite quand il prononce 3-0, du coup... Il est quasi simultané sur la fin du tour de.
Ouais. GG, 3-0. Ouais. GG, 3-0.
C'est bien Luc, mais.
Ouais. GG, 3-0.
Et dans le casque, on entend les deux. Donc là, on arrive plus précisément avec les extraits qu'on a dans les des énoncés coraux qu'on a dans les jeux. Donc toujours par rapport à l'article de Lerner, il différencie ce qu'il appelle les coproductions impromptues des coparticipations sollicitées. Donc il définit par coproduction impromptue en fait l'émergence des énoncés coraux dans le tour de parole par un coparticipant sans sollicitation spécifique de la part du locuteur engagé. Et en opposition, la coparticipation sollicitée montre l'émergence d'énoncés coraux dans le tour du locuteur engagé suite à une sollicitation. Donc là, je vous ai mis à chaque fois, donc j'ai numéroté les extraits des exemplaires. Donc en fait, dans notre collection, on a 10 extraits. Et on en a deux, donc le 4 et le 9, qui correspondent à des coparticipations sollicitées. Donc le reste sont plutôt de type coproduction impromptue, donc on le verra après dans le détail. Ici, je vous ai montré donc, les transcriptions des extraits 4 et 5, 4 et 9, pardon. Donc là, on peut voir que... donc je vous ai numéroté, parce que quand je voulais vous expliquer, à chaque fois, je cite les lignes. Donc sur l'exemplier, je vous avais les lignes, mais pas sur le slide. À l'extrait 4, en fait, il y a l'introduction du référent avant l'énoncé choral, avant qu'il y ait possession simultanément. Il y a Raphaël qui dit « je veux voir les possessions ». Et ensuite, il y a l'image sur l'écran télé où l'écran montre le résultat de l'information recherchée, puis l'énoncé choral. Donc là, il y a eu... on peut expliquer ça comme une forme de sollicitation où Raphaël dit, verbalise qu'il cherche les possessions et du coup, les deux s'associent, enfin plutôt Luc s'associe à Raphaël pour essayer de chercher cette information-là. Dans le deuxième extrait, 9, donc il y a un début de paire adjacente question-réponse, donc là, il n'est pas sur l'extrait, mais au début de l'extrait, il y a une paire adjacente où question-réponse initiée par Matt à la ligne 4, où il demande sur le jeu Burnout, pardon. Et en fait, la question n'est pas entendue, donc du coup, il y a une demande de reformulation où Josh demande quoi, et il demande que, voilà, il répète la question. Donc Matt reformule sa question, et en fait, simultanément, Josh et Tom, pardon, les deux autres joueurs, regardent en fait une tierce personne qui ne fait pas partie des joueurs, mais répondent simultanément quand même à la question de Matt. Donc là, la question n'était pas dirigée spécifiquement à Josh, mais comme elle était générale, les deux se sont associés pour répondre. Donc ça forme un énoncé choral. Donc c'est une forme de sollicitude. On l'a décrite comme une forme de sollicitude. Donc sinon, pour les autres, on le verra dans les extraits juste après, c'est plutôt impromptu. On va le voir que ça vient suite à une référence à l'écran. Il n'y a pas eu de question, il n'y a pas eu de sollicitation. Spontanément, il y a eu ces énoncés choraux, sans trace, sans question précédente. Donc là, Lerner décrit d'autres fonctions de la production d'énoncés choraux, et j'ai repris ces fonctions-là en les associant avec les extraits que j'avais dans la collection. Donc d'abord, il définit comme fonction que les énoncés choraux peuvent fournir aux participants une méthode pour la réalisation d'une action conjointe avec un autre participant. Donc ici, on a trois extraits, le 1, le 2 et le 5. Et donc, on va le voir notamment que ça fait suite à un référent visuel déclencheur sur l'écran télé de l'action-réponse conjointe. Donc là, on va passer sur les extraits pour que ce soit un peu plus parlant.
C'est ce qu'il faut faire, faut temporiser. Attends, tempo toi. Maintenant.
Ah, je t'ai donné maintenant.
Si je te la passe, tu la pas là. Oh, le centre que je te fais. Oui. Oh, le poteau. Le poteau. Oh non.
Donc en fait, là, je l'ai pas expliqué avant, mais. Donc c'est dur de, quand on a les deux vues synchronisées, de tirer son regard soit sur les joueurs, soit sur le jeu, donc je vais le passer plusieurs fois. Donc, juste pour vous remontrer l'action du ballon, où ça va être centré, il va y avoir une tentative de but, et en fait, ça va être sur le poteau.
Oh, le centre que je te fais. Oui. Oh, le poteau. Le poteau. Oui. Oh, le poteau. Le poteau. Oh non. Oh, non.
Donc là, ça donne un exemple. La réalisation de l'activité conjointe, c'est... donc là, c'est l'activité de jeu en lui-même sur l'écran télé, donc le jeu de foot, et c'est pas l'action des participants. Donc eux, ils sont en train de jouer, mais c'est l'action qui est en train de se passer sur l'écran télé. Mais ils sont tous les deux en train de réaliser cette même action et de suivre le jeu, et suite à un référent donc, visuel et non verbal des joueurs, Il y a cet énoncé choral. Autre exemple.
Ah, c'est toi. Ah, c'est croix que je veux bien, mais ah, ça va.
Croix, croix, désolé, mais c'est sur le bus.
Putain, c'est le bordel. Ah oh, oui, je le manque, je te tue, honnêtement.
Ah, le péno. Oh, le péno. Qu'est-ce qu'il y a, le péno? Carton rouge. Rouge. Allez, belle, belle, belle.
Bien joué, bien joué.
Donc là, en fait, suite. Donc là, je l'ai décrit à chaque fois dans la transcription. Bon, là, ça va un peu vite, mais temporellement. Il y a l'arbitre qui brandit le carton rouge juste avant que Luc dise le péno, et ensuite il y a l'énoncé choral, carton rouge.
Qu'est-ce qu'il y a le péno? Carton rouge. Allez. Oh le péno. Qu'est-ce qu'il y a le péno? Carton rouge. Allez. Belle, belle, belle.
Bien joué.
Troisième exemple, de même type, avec un référent visuel déclencheur sur l'image télé.
C'est tendu là.
Là on a ruiné là. Il est passé au milieu, il nous a trouvé tous les deux.
On s'est fait prendre de vitesse, mais vraiment là.
Ah ouais. Putain, il est personne. Oh la barre. Putain, il est personne. Oh la barre. Putain, il est personne. Oh la barre.
Enfin, juste pour l'extrait 5, il y a en plus un regard en fait de Luc vers Rap. Donc Luc c'est lui et Raphaël c'est lui. Il y a une action en fait, un regard de Luc qui s'associe en fait pour qui accentue en fait l'association de l'énoncé choral. Joueur Josh ici et il voit qu'il est premier. Donc là, sous forme d'explication, évaluation, pour un tiers. Troisième fonction, c'est l'émission d'une plainte conjointe. Donc ici, nous, on a plutôt associé ça avec les formes d'interjection, exclamation, qui peuvent être interprétées comme des formes de plainte conjointe, mais positives. Donc ça peut être une exclamation positive. Donc également suite à un référent visuel déclencheur sur l'écran télé. Là, on a trois extraits, le 3, 6, 7 et 8. Donc je vais vous les montrer rapidement.
Je me dis, j'ai pas pu le faire tout à l'heure, s'il te plaît.
Ah ouais.
Attends.
Et alors, on...
Voilà, comme ça.
Et vers les cages.
Ok, ok, vers les cages.
Mais c'est bon, mais c'est bon.
Dépêche-toi, 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 dépêche-toi.
Prends la clé, sors, 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 sors.
Ça fait des mots de merde.
Bip, 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 sors.
Ça fait des mots de merde.
Bip, bip, bip.
C'est la marque d'accord. Donc là, on a un seul extrait. Je l'ai montré tout à l'heure, mais là, je vais vous montrer la vidéo avec. C'est la marque d'accord ou de désaccord avec le locuteur précédent. Donc là, Luc montre son accord sur la mise en attente. C'était sur l'histoire des possessions. Ou Raphaël cherche les statistiques sur le nombre de possessions. Donc un extrait.
Contre.
Mais oui, bien placé, c'est ça qu'il faut faire. Mais il n'y a pas, on n'a pas la tactique contre.
Attends, passe pas. Je vois les possessions. Attends.
Possession, 82%.
Donc là, pareil que l'un des premiers extraits que j'ai montré, on entend mieux dans le casque, mais il y a les deux qui. Raphaël le dit plus en murmurant, mais les deux le disent en même temps. Et ça fait suite, en fait.
Je vois les possessions. Attends.
Possession.
Ça fait suite à l'activité de l'écran aussi sur la suite.
Non, 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 c'est pas celui-ci, ça.
Pas celui-ci.
Que je décris dans la transcription après, où en fait, Luc décrit, je sais plus, 82%, et en fait, il décrit la statistique des passes réussies. Et en fait, ensuite, il y a le changement d'écran, et ils vont trouver l'écran possession. Donc voilà pour ces extraits sur les énoncés coraux en fonction des catégories définies par Lerner. Je vais passer parce que c'est moins important, mais là je l'ai mis juste pour le slide, pour finir sur l'article de Lerner, où il décrit les énoncés coraux dans d'autres types de cadres, où on peut trouver les énoncés coraux par exemple dans notamment les séquences d'ouverture et de clôture dans des conversations, où les gens qui se saluent disent bonjour en même temps ou au revoir en même temps. Comme tout à l'heure, je l'ai expliqué, les remémorations communes, donc se souvenir ensemble de quelque chose et le verbaliser en même temps. Ou également, la production d'énoncés chorales peut être liée avec une histoire de compétition de tour où un locuteur essaie de prendre le tour de l'autre pour prendre la parole. Et enfin, à la fin de l'article, il décrit les énoncés coraux en regardant la situation, notamment enseignant-élève, où il y a une audience plus réactive, parlante. Donc les instructions en classe où l'enseignant pose une question et la classe ensemble répond en même temps. Et une autre type de participation, mais là il prend référence avec dans le domaine musical où il y a le chanteur qui arrête à un certain moment les paroles pour que le public répète en même temps ou la suite des paroles. Donc lui, il définit aussi ce cadre-là. Mais on n'a pas d'exemple dans notre collection, donc c'est pour ça que je ne détaille pas. Donc, pour conclure, quelques remarques générales sur les énoncés coraux. Donc là, on a remarqué que il y avait plus ou moins entre 1 et 3 tokens dans les répétitions, dans les segments répétés, pardon, les énoncés coraux, qui sont plutôt rares, en fait. Il y a 10 occurrences sur 3h20 d'enregistrement, et que l'apparition est plutôt récurrente après une action sur l'image télé, sauf à l'extrait 9 où c'était suite à une question. Donc l'élément déclencheur ne provient pas du participant lui-même, mais plutôt de l'écran télé, du jeu, de l'activité du jeu. Et les énoncés coraux sont de type plutôt impromptu dans l'interaction, donc il n'y a pas de projection de ces énoncés coraux par les participants eux-mêmes. Et la référence de ces énoncés sont plutôt d'ordre de mots techniques, exclamations, vocabulaire du jeu, carton rouge, poteau, la barre, etc. D'un point de vue linguistique et sociolinguistique, on peut voir que les énoncés coraux favorisent la collaboration des participants dans la construction du jeu. Également, on voit une marque d'affiliation à un groupe, à un coéquipier, et une perspective conjointe sur l'action en cours, donc la référence à l'image télé qui est vraiment centrale. Ça peut montrer également une marque d'accord entre les participants. Et enfin, on peut trouver une certaine compétition possible entre les participants, mais sur la performance du jeu lui-même, c'est-à-dire être meilleur que son coéquipier au jeu vidéo, donc être le premier quand il y avait l'énoncé choral, oh, il est premier, etc. Et donc cette compétition est plutôt sur la performance du jeu et pas forcément sur la prise de tour. Et ça peut être une forme d'atténuation aussi d'une situation conflictuelle, tendue, stressante, soit entre les participants, la pression du jeu, la pression pardon, de jouer bien face à l'autre, et sinon par rapport au déroulement du jeu lui-même, donc l'action réussie comme on a vu avec les buts, si le but est marqué ou pas. Quelques perspectives par rapport à ce travail-là. Donc déjà par rapport au phénomène des énoncés coraux, on aimerait regarder dans les mois qui viennent donc, ces énoncés coraux dans d'autres types de jeux que sur PlayStation. Donc ici, on avait du foot ou de la voiture, mais voir avec d'autres jeux, peut-être des jeux d'aventure, exploration de monde virtuel, autres sports, si on aurait également des énoncés coraux. Et regarder sur d'autres types de consoles. Donc ici, on a uniquement des jeux sur PlayStation, voire par exemple sur la Wii ou d'autres types de consoles. Et ce qui nous intéresse aussi avec le corps qui est en action avec la parole, et pas seulement les mains sur la manette. Donc regarder les différences de vocabulaire possibles, leur fréquence, leur fonction, par rapport à ce qu'on a trouvé déjà ici. Regarder la possibilité de correspondance gestuelle donc par les participants, donc opposer les énoncés coraux aux gestes coraux. Donc nous, on en a trouvé quelques traces déjà dans les jeux qu'on a, dans les collections qu'on a ici, notamment dans l'engagement et le désengagement entre les phases de jeu, où ils sont là, ils se reculent dans le canapé, ils se remettent bien devant, donc ils le font simultanément, mais ça marque des phases dans le jeu. Et d'une manière plus générale, collecter de nouveaux corpus pour élargir ces données-là et analyser les différentes pistes que j'ai montrées en introduction. Voilà. Merci. Je vous ai remis les références.